7h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Non mais quand je pense qu'on est déjà dans la dernière semaine d'RTL vous régale, vous le croyez ça ou pas?
Ben non.
C'est l'antépénultième.
Et moi je suis partie en vacances grâce à ça, mais alors c'était génial.
Ben, c'était le but, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Ça va les amis?
Ben oui.
Bienvenue à tous sur RTL, à l'heure du déjeuner de 11h à 12h30, chaque jour une région, des spécialités. Allez aujourd'hui on file en Savoie, c'est une bonne idée, la Savoie, la Haute-Savoie. Alors des montagnes, plus grand domaine skiable du monde avec 60 stations de sport d'hiver, des parcs naturels régionaux, des lacs. On est à la frontière avec la Suisse et ce terroir du jour, Jean-Seb, c'est une montagne, mais c'est une montagne aquatique.
On va dire une montagne lacustre.
Exactement.
Voilà, parce que la Savoie et la Haute-Savoie recèlent quelques merveilles en la matière. Et comme, Dieu merci, ça n'est pas l'heure du ski, on va parler lac. Le lac Léman, en premier lieu, lorsqu'on descend de la montagne, à cheval ou pas, et qu'apparaît cette mer intérieure dans laquelle on planterait la tour Eiffel à l'aise, hein, vu que le lac fait 310 mètres de profondeur. Bien, depuis 1567, ce lac marque la frontière entre la France et la Suisse. Sur la rive française, on a Évian-les-Bains. Et même si les fastes des années 20-30 ont disparu, il reste à Évian une classe évidente grâce à des bâtiments magnifiques, comme le Palais Lumière, les anciens thermes, ou l'hôtel de ville installé là dans la Villa Lumière, qui est l'ancienne maison de vacances des parents des frères du même nom. Vous avez des plages, des eaux ultra pur. Le Léman, c'est carrément la mer à la montagne et c'est pour ça que c'est un bonheur. Et c'est sans doute encore plus vrai du côté d'Annecy car le lac est lové dans son écrin avec des dimensions beaucoup plus modestes. Hein. Il fait 15 km sur 3, mais il y a un côté totalement spectaculaire à ce site. Et puis si on passe en Savoie, Aix-les-Bains est en bordure du plus grand lac naturel de France. Le lac du Bourget est plus que séducteur avec ce caractère sauvage, surtout sur une de ses rives. Et ce qui est remarquable, c'est que ces trois lacs sont redevenus poissonneux. C'est qu'il y a de nouveau des pêcheurs. Le lac du Bourget et le Bourget du lac est labellisé cité lacustre du goût. Nous sommes en terrain connu, on mange bien. Moi, je rêve d'un humble chevalier là, juste cuit avec un petit truc de citron dessus, ou juste comme ça, cuit sur la peau, à basse température, avec cette chair un peu floconneuse, qui est d'une suavité absolue.
Floconneuse.
Oui. Ah, l'humble chevalier, c'est une des choses les plus fabuleuses qui soient.
Ah oui. Je suis d'accord.
Ma chère Louise, reprendrez bien un peu de fromage.
J'aimerais bien continuer en parlant des poissons du lac, mais je dois commencer cette émission par le reblochon. Qui dit Savoie, dit reblochon. Donc vous y êtes, on est en plein mois d'août, mais il y a quand même fondue, raclette, il y a tout ça. Et le reblochon, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça?
Ça vient du terme reblocher, je pense.
Ah, vous savez.
Et si mes souvenirs sont bons, ça vient du fait que les fermiers retraillaient...
La rebloche.
La rebloche était la deuxième traite.
En fait, à l'époque...
Qui n'était pas soumise à l'impôt.
Exactement. La traire la vache était imposable, donc les fermiers, les agriculteurs, les éleveurs mentaient un petit peu.
Ils ont laissé un peu.
Ils faisaient pas toute la production du lait. Et donc ils attendaient le lendemain pour pas être imposés, et on appelait ça reblocher. D'où le reblochon. Et c'est un fromage qui est fait en deux fois parce que le lait du deuxième jour était plus gras et plus doux. Le côté fondant du reblochon.
Le lait de la seconde traite. Reblochon. Reblochon fermier, évidemment. On en parlera dans cette émission. Dans la playlist d'RTL vous régale, ce matin, un éleveur de champions. La chanson s'appelle WAF. Julien Doré est au menu, tout comme ce duo phare des années 80. Mais je dois m'en aller. Mumu, Daniel, les Niagara, ajoutez-y Texas. Et on a envoyé un petit carton d'invitation aussi à un ami de la maison. Centre-ville sur la compilation des artistes RTL 2021. Calo sera avec nous également. Voilà un aperçu de la playlist qui vous attend ce matin dans RTL Voyage jusqu'à 12h30.
See fait, car son fille, l'allure stupéfiante, à pied comme en fiancé. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est bel, il est beau décrier, outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de le voir nu. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île. Sans contrefaçon, maquillée comme un fiancé. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
Sex Indochine et Christine and the Queens sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
On se promène à travers toute la France depuis le début de cet été. Il nous reste quelques jours pour vous accompagner. On s'est dit qu'aujourd'hui, la Savoie, c'était une bonne idée. Et vous savez que depuis le début du mois de juillet, dans chaque début d'émission, on vous partage nos évidences. En Savoie, quand moi, il y a un souvenir d'enfance. Quand on me dit Savoie, je pense gâteau de Savoie, Louise. Je ne sais pas si
et
vous partagez cet avis.
Pourquoi ?
Je n'en sais strictement. Parce que ma grand-mère faisait des gâteaux de Savoie.
Et c'est exactement la même chose que je pense. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui nous anime, qui est léger, qui
est... un truc qui rassure.
Oui, complètement, qui est régressif, on appelle ça comme ça. Le gâteau de Savoie a été créé en 1358 à Chambéry, vous vous rendez compte, ça date quand même. C'est le comte de Savoie, Amédée, qui demanda à son pâtissier de créer un gâteau léger, comme une plume. C'est exactement ce qu'on ressent quand on le goûte. Vous voyez cette petite brioche aérée qui
sont les blancs d'œufs, ils sont les blancs d'œufs qui donnent ça.
Forcément, mais c'est oh, je sais pas, je peux pas vous en parler parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Et du coup, donc c'est effectivement c'est pas les blancs d'œufs, c'est les jaunes d'œufs et le sucre qui ont été ajoutés à la farine et après les blancs d'œufs montés en neige.
Voilà.
Et ce qui fait cette préparation aérienne et vous savez Mercotte. Ouais. Dans le meilleur pâtissier. Mmh. a la meilleure recette du gâteau de Savoie.
Et évidemment, c'est un secret, elle ne va pas nous le donner.
Ben non, bon. Comme d'habitude, voilà. On est habitués.
Pour moi aussi, c'est le gâteau des goûters d'anniversaire.
Bah oui, parce que c'est, c'est comme une brioche, c'est comme un cake, ça plaît à tout le monde. Et c'est, oui, et ben, on peut le napper de chocolat, de confiture. Moi, je vais vous dire, moi ce que j'adore, c'est en fin d'été, c'est une fois qu'on a pris les fraises, les abricots, un peu fatigués, qu'on en a fait une confiture, on trempe le gâteau de Savoie dans la confiture et on le mange comme
pire
ça.
Pire même, vous pouvez le trancher dans la hauteur, vous savez, et puis vous tapissez, vous nappez votre gâteau à la moitié inférieure de cette confiture, de ce coulis de fruits rouges, de ce que vous avez sous la main, et puis vous refermez et vous avez cette espèce de fine
couche. On se fait du mal, là.
Voilà, ça c'est fantastique. Fantastique. On est en Savoie, il y a sans doute après le gâteau de Savoie une deuxième évidence, Louise. Des pâtes. Les petites pâtes carrées qui viennent des montagnes de Savoie, exactement, ce sont les crozets.
Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient? C'est les alpinistes à l'époque qui devaient travailler sans savoir vraiment où ils allaient, s'ils pouvaient dormir, s'ils pouvaient s'alimenter, qui ont pris dans leur sac à dos un contenant, enfin un aliment qui pouvait résister à la température et en même temps rendre en forme le corps. Et bien c'était les crozets. C'est pour ça que c'est de Savoie, parce qu'on part de ces alpinistes qui ont gravi les montagnes, etc. Ça a un petit goût particulier, vous connaissez ?
C'est une farine particulière, je pense.
Oui, c'est une farine de sarrasin et surtout, ils font une croziflette.
Ah oui, alors ça, c'est le truc ultime.
Donc, c'est pas une tartiflette. Mmh. C'est qu'ils cuisinent ça en gratin où ils mettent du fromage dessus, mais c'est pas que du fromage et des pommes de terre. Ce sont les crozets. Et il y a une maison que j'adore qui s'appelle Alpina Savoie qui a gardé cette tradition depuis 1844, a créé ce petit patrimoine culinaire local.
Les crozets de Savoie, on vous emmène en altitude, mais on va redescendre deux secondes en centre-ville. Voici Calogero sur RTL. la compilation Les Artistes RTL 2021. Ces 40 tubes réunis sur le double CD qui est la bande son de votre été. À Centre-Ville, c'était Calogero sur RTL.
RTL vous régale jusqu'à 12h30.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Nous sommes en Savoie ce matin, Jean-Sébastien, en lançant l'émission il y a quelques minutes, on disait direction la montagne, montagne aquatique, on va vous le prouver, parce que c'est vrai que c'est une montagne lacustre, et on vous en donne la preuve, c'est pétri de lacs, dont un des plus fameux, et sans doute.
Moi je suis assez fan du lac du Bourget, c'est un endroit qui est plutôt magique, avec des rives majestueuses sur le côté sauvage. Ce sont des rives abruptes, avec juste quelques criques et un décor d'opéra qui sert d'écrin notamment à une abbaye que des moines cherchant le beau ont posé là-bas au XIe siècle. Hautecombe, c'est un monastère cistercien. Ça a été une des abbayes les plus prospères du monde qui a donné deux papes à la chrétienté. Mais un tel lieu a eu forcément plusieurs vies. Hautecombe est devenu le Saint-Denis de la Maison de Savoie, dans la mesure où 45 comtes et princes de Savoie s'y sont fait inhumer. La dernière tête couronnée à choisir Hautecombe comme dernière demeure fut le dernier roi d'Italie, Umberto II, et c'était en 1983. La Révolution en fait une faïencerie. C'est à nouveau une communauté religieuse qui veille sur Hautecombe. Hautecombe qui vaut la peine d'être vue pour son architecture. Elle a été certes en partie reconstruite au XIXe siècle dans un style gothique troubadour, employé en fait, ça en a fait un monument assez exubérant, mais il y a quand même quelque chose de très romantique qui lui donne un petit air d'un château de Louis II de Bavière. Et sur les rives du lac du Bourget, on trouve également la ville d'Aix-les-Bains. Et au-delà de la station thermale, Aix possède un patrimoine belle époque, presque unique, à l'image du casino Grand Siècle et des quelques palaces dans lesquels se sont pressés tout ce que le monde comptait de célébrités, de people, de souverains qui se retrouvaient à Aix-les-Bains. Mais je peux vous assurer que la liste, c'est le bottin mondain.
C'est souvent le cas dans les villes d'eau, dans les villes thermales, etc.
C'était le wouzou de l'époque qui s'est retrouvé là-bas. Et si vous voulez le souvenir absolu, la carte postale, the cherry on the cake, pour rapporter pour vos soirées diapo,
faut monter.
Il faut monter. Vous vous souvenez des soirées diapo?
Maintenant, on fait des soirées iPhone. Ou Je me souviens du bruit du bruit du chariot qui avançait dans le lecteur.
Qui faisait
clac, clac.
Ah, les soirées diapo. Fait bien l'appareil diapo.
Je suis champion du monde officiel
de diapo.
Voilà.
Des imitations.
Dites-moi, on monte jusqu'au Mont Revard.
Alors, il faut aller au Mont Revard. De là-haut, vous avez une carte postale, mais insensée, qui se déploie devant vous. Le lac du Bourget, sublime. Aix-les-Bains en faire valoir et en avant-plan, c'est idéal. Et alors, pour peu que vous ayez quelques brumes, des nuages qui avancent avec le vent très vite comme ça et qui jouent avec le soleil, c'est l'effet waouh, assuré.
Je trouve ça insensé que Louise ne se souvienne pas du bruit du chariot de la diapo.
Arrêtez, c'est terrifiant.
Vous n'avez pas entendu ça, vous n'avez rien connu. Il s'appelle Michel Nas, il est responsable du restaurant Savoyard à Chambéry. Il est en ligne avec nous dans RTL vous régale. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour.
Sur RTL. On est à deux pas chez vous du centre historique de Chambéry. Alors le Savoyard, d'entrée de jeu, si vous deviez nous inviter à déjeuner chez vous ce midi, vous nous serviriez quoi, Michel? Faites-nous rêver, hein.
Eh ben, même à cette saison, on vous sert encore des fondues, des raclettes, le bertou.
Ah oui. Mais il n'y a pas de saison pour ça, c'est toute l'année.
Non, il n'y a pas de saison. Et effectivement, nos clients nous le rendent bien d'ailleurs.
Faut expliquer ce que c'est.
Mais non, mais pourquoi on catégorise la fondue, la raclette en hiver?
Ah bah parce que quand il fait 30 degrés dehors et puis qu'on
mange moi je suis pas d'accord.
Personne, c'est un petit peu compliqué parfois quand même.
J'avoue.
On a retrouvé déjà des clients dans notre salle climatisée et quand ils ressortent et qu'il fait 38 degrés dehors après un bon coup de blanc et une raclette, c'est un petit peu compliqué.
Mais je vous rassure, l'hiver c'est pareil.
faut leur dire d'enlever les moufles aussi. Vous parliez du bertou, on peut préciser de quoi il s'agit?
Alors, le bertou, c'est pas une spécialité vraiment savoyarde, mais au savoyarde. Oui. C'est du fromage d'abondance qu'on fait fondre avec un petit peu de madère, du vin blanc, de l'ail, qu'on gratine au four et qu'on sert chez nous avec des pommes de terre, de la salade et des charcuteries artisanales.
Et donc, on trempe les pommes de terre dans le fromage fondu, c'est ça?
Exactement. Oh là là. Et puis, c'est une spécialité qui a été classée STG, donc une spécialité protégée avec un label qui a été déposé il y a quelques mois. Et maintenant, pour pouvoir servir ce Berthoux, il faut qu'on soit labellisé, ce que le restaurant savoyard a obtenu lors de la fin du confinement.
À la carte du restaurant aussi, il y a des ravioles, parce qu'on parlait des crozets tout à l'heure. Bien, ça n'a rien à voir, vous faites des ravioles, grande tradition.
Exactement, on fait des ravioles du Dauphiné, parce qu'on élargit un petit peu nos spécialités, puis les gens sont très friands de... Sont très friands de pâtes, hein, malgré tout.
Évidemment. Elles sont farcies avec quoi ?
Elles sont farcies au fromage frais. Mmh. Et nous, on rajoute une sauce au Beaufort, pardon. Voilà. Et des noix de Grenoble.
Donc, elles ne sont pas de chez vous, mais vous rajoutez la petite touche qui fait croire que c'est chez vous.
Alors, c'est pas qu'elles ne sont pas de chez nous.
Vous savez, bah, ravioles du Dauphiné, c'est pas de chez vous.
Voilà.
Et ce qui est très bien.
Exactement.
Mais vous rajoutez la petite touche du Beaufort.
Michel, on s'en parle du hamburger du Savoyard ou pas ?
Ah bah bien sûr, le hamburger, c'est un plat maintenant qui est devenu emblématique. Alors nous, en fait, on a la particularité de toujours apporter une touche savoyarde à des produits plus traditionnels ou plus modernes, comme le hamburger. Donc nous, on fait notre pain maison, on rajoute du fromage d'abondance, du lard paysan de Savoie, un bon steak de 180 grammes, avec une petite sauce aux oignons confits. Et servi avec des frites maison et de la salade verte.
Voilà, pour alléger le tout. Ce qui explique que pas mal de gens qui passent leurs vacances à la montagne l'été, ils fassent du vélo. Voilà.
Pourquoi ça ?
Allez savoir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Michel. Je rappelle le nom du restaurant, le Savoyard. Ça dit ce que ça veut dire et ce que ça doit dire. C'est à Chambéry. Qu'est-ce que c'est beau, le centre historique de Chambéry, avec ses petites ruelles, tout ça, j'adore.
Avec ses traboules.
Ouais. Aussi. On vous salue, on vous souhaite un bel été.
Merci beaucoup. Et
on espère que ça va bien. Comment ça se passe la reprise là depuis quelques mois maintenant ?
Depuis très peu de mois quand même, mais enfin bon, on est plutôt contents. Maintenant, on va voir ce que l'avenir nous réserve. On est très prudents quant à l'avenir. Mmh. On espère retrouver une saison d'hiver complète.
On espère pour vous aussi, on croise les doigts. On vous souhaite le meilleur. À bientôt, Michel. Voilà.
Merci beaucoup à vous.
Un instant, les petits challenges de Louise Petit-Renault. C'est dans RTL vous régale.
11h, 12h30. RTL vous régale.
Vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Il est évident que depuis le début de cet été, Louise Petit-Renault est devenue médaillée olympique des astuces de cuisine. Elle vous le prouve tous les jours. Voici les petits challenges de Louise. Julien est à Provins, il adore les piments. Il se demande si vous avez un truc, vous savez, pour éviter que le feu du piment reste sur les doigts.
Oui.
Ça
oui.
peut être dangereux quand
non, mais c'est vrai,
vous
c'est
mettez
une vraie
les doigts
question.
Dans les yeux.
Alors, ce que vous allez faire justement, c'est que Julien, avant de toucher votre piment, vous allez vous frotter les mains avec de l'huile végétale. Et donc, comme ça, vous allez un peu graisser tout ça.
Barrière végétale.
C'est ce qui va faire que vous allez enlever cette espèce de côté piquant qui peut irriter la peau du piment.
Charlotte de Chaillé-les-Marais, à ses petits-enfants en vacances, ça fait quelques semaines qu'ils sont là, ils adorent les pâtes, mais elles tournent un peu en rond. Elle est à court d'idées. Vous avez un truc original pour faire des pâtes ?
Vous pouvez pas me dire ça. C'est une blague ?
Non, mais je sais que c'est
vrai.
Vous allez nous parler de votre souvenir d'enfance.
Forcément.
C'est quoi ? Rappelez-nous.
Moi, c'est la soupe aux petites pâtes, c'est-à-dire quand on cuit... Enfin, ma grand-mère, donc personne ne peut être à son niveau, hein. Tout de suite, je le dis, même si je donne l'astuce. Ma grand-mère cuisait les petites pâtes, donc c'est même pas les alphabets, c'est encore plus petit, c'est les petites étoiles dans du lait et pas dans de l'eau. Et la petite astuce, parce que je sais que vous adorez ça, c'est de les commencer avec un fond d'eau comme un risotto et après de rajouter le lait pour qu'elle gonfle.
Ah d'accord, très bien.
C'est irrésistible.
Pauline à Épinal, et vous servez ça comment ? Il y a du fromage avec ? Y a un truc ?
Absolument pas, pourquoi ?
Rien du tout.
Bah non.
Pâtes et nature.
Il y a mémé.
Très bien. Pauline d'Épinal nous pose une question, elle est essentielle. On a tous des bouteilles de vin qui traînent avec un fond de vin dedans. On a une politique dans cette émission de ne rien jeter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fonds de bouteilles de vin ?
Alors, ce que vous pouvez faire, Pauline, c'est de verser ces fonds de bouteilles, vous savez, dans vos... Comment on appelle ça ?
Les
bacs à glaçons. Ou la ranger avec les petits carrés. Et ça peut vous servir après pour déglacer une viande, pour faire un bouillon, pour donner du corps à une recette.
Voilà. Et pour donner du corps à vos challenges, il faut absolument envoyer par SMS le mot régal suivi de votre message au 64 900. Je rappelle que pour tous les messages que nous recevons, vous gagnez des guides du retard aux éditions Hachette et des montres RTL. Dans un instant, l'ambassadeur, l'ambassadrice d'RTL vous régale, Isabelle Morini-Bosque, est l'invitée de cette émission. 1979, un classique au répertoire de Supertramp, c'était The Logical Song sur RTL.
RTL vous régale.
12h30, RTL vous régale.
Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie.
J'ai rien trouvé de mieux pour tenter de m'inviter à dormir chez Isabelle Morini-Boss, puisque c'est elle la dame de Haute-Savoie.
Ben, ça serait pas une mauvaise idée parce voilà. qu'on vient d'acquérir un petit bien, comme on dit, dans un vieil immeuble à Evian, juste dessus de la piscine olympique au bord du lac Léman.
Mais vous m'envoyez du rêve.
Oui, et puis là, vous savez pourquoi on l'a pris là? Parce qu'on est sûr qu'ils viendront pas nous foutre un immeuble devant, parce qu'ils bétonnent tout. Mais là, il y a une route, donc à moins de la détruire.
Le ton est donné. Mesdames et messieurs, l'ambassadrice d'RTL vous régale ce matin, vous l'aurez reconnu. Sa voix aussi est reconnaissable, mais justement, puisqu'on en parle. Isabelle Morini-Boss, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une grande histoire, la Savoie et vous, parce que vous y avez grandi.
Non seulement, alors, j'y ai pas, moi j'ai vécu à Grenoble, mais je suis née à Paris, mais j'y allais tous les étés, parce que mon père, qui est orphelin et provençal, allait savoir pourquoi, était en orphelinat à Douvaine. Douvaine, c'est donc la Haute-Savoie.
Mais votre mère était originaire de la région.
Alors, ma mère est née au Brésil, a vécu 18 ans au Brésil, mais elle est née, une partie de sa famille, son père, est née à Aigbelette, à Lépin-le-Lac.
C'est Lépin-le-Lac que j'ai vu, ouais, exactement.
Absolument. Et... ravissant, petit coin, et comme c'est loin de Genève, et voilà, là, il n'y aura pas d'horreur de béton, enfin, en tout cas, moins qu'en Haute-Savoie.
Il y en a moins, en tout cas. C'est sûr. Alors vous, vos vacances d'enfance, du coup, vous les avez passées à vous baigner dans le lac d'Aigbelette.
Lac Léman, Alors, j'ai appris à nager dans le lac d'Aigbelette.
Aigbelette, exactement.
Un peu à la dure, quoi. T'apprends à nager ou tu sors de l'eau.
Donc, oui, c'est-à-dire que c'est quand même un lac dans des conditions d'apprentissage de la natation un peu particulières.
Non, mais le lac, il n'est pas rien. Mais
vous allez entendre. Il y a une suite.
Effectivement, appris à nager dans le lac d'Aigbelette, appris à ramer à tous les sens du terme dans le lac d'Aigbelette. On passait nos vacances près du passage à niveau. Et à côté, il y avait une boucherie.
Voilà.
Et donc, il jetait ses carcasses dans le petit estanco qui donnait dans le lac.
Voilà.
Et nous, on se baignait là.
C'est sympa.
Et donc, on se baignait au milieu des carcasses,
des carissages,
des rats d'eau, etc., des vipères d'eau et tout. Et on était très heureux.
On dit toujours, on ne guérit jamais de son enfance.
C'est exactement ça. Voilà.
Vous avez failli vous noyer, paraît-il.
Oui. Quand on nage sans bouée, on est persuadé qu'on sait bien nager. Et il suffit que quelqu'un vous attrape par les reins, vous tire par les cheveux et tout, et qu'on boit la tasse. Et boire la tasse, après, on a l'impression qu'on boit tout le lac.
Quand je vous dis que la Savoie et Isabelle Morini-Boss, c'est une immense histoire.
C'est un beau lac.
On peut parler de la Savoie, des plaisirs de la table, etc. Je sais que vous êtes... vous êtes une gastronome à votre manière.
Alors, vraiment à ma manière.
Je sais. C'est-à-dire que vous avez une alimentation un petit peu particulière.
C'est vrai.
On peut le dire. C'est pas donné à tout le monde. Vous, ce sont les œufs.
Oui.
Au départ, quotidiennement, manger des œufs.
Œufs crus, œufs mollets, œufs cocottes. Tout ce qui est œuf.
C'est-à-dire que sorti des œufs, ça devient très vite compliqué.
Voilà. C'est-à-dire que je mange, mais c'est pas ma passion.
Son plaisir.
Et si, le gruyère fondu.
Ah, quand même.
Mais
donc, justement, on peut parler de fromage fondu, puisque spécialité savoyarde.
Ah, mais la fondue. Avec trois fromages.
On rappelle lesquels ?
Alors, ça peut varier. Pour moi, il y a du Comté, du Beaufort et de l'Appenzeller.
De l'Appenzeller. Ouais, ça, c'est bien, ça. Vous cuisinez un peu, Isabelle ?
Un petit peu d'eau de vie.
Pardon ?
Qui me parle ?
Non, mais je trouve ça sensationnel d'avoir pour ambassadrice dans RTL, vous régale, Isabelle Morini-Bosque.
Oui, mais alors, le plaisir de la table, pour moi, c'est s'asseoir avec des gens sympathiques et une bonne atmosphère. Ce que j'ai dans l'assiette, je m'en souviens jamais. Si les gens étaient antipathiques ou si le climat était serein et très agréable, ça, en revanche, je le retiens toujours.
On est d'accord. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de souvenirs d'enfance liés à la table particulier, quoi. C'est pas...
Non, mon père était très frugal, ma mère ne fait... Pardon, maman. Ma mère faisait la cuisine, mais du quotidien, c'est-à-dire que ça l'embêtait un peu. Et moi, quand je ne travaillais pas, je faisais la cuisine, si. En tout cas, j'ouvrais très bien les boîtes et puis je savais très bien les agrémenter.
Au-delà de ça, ça veut dire quoi, la Savoie, pour vous, aujourd'hui ?
Moi, honnêtement, c'est l'alliage entre le lac, parce que moi, on me dit « t'aimes la montagne », j'aime surtout le lac. Le lac Léman, et non pas le lac de Genève. Ouais. Voilà, j'adore les lacs.
Quelle est la différence entre le lac Léman et le lac de Genève ?
C'est-à-dire que différence, elle est simple, c'est que les Genevois disent que c'est le lac de Genève.
Voilà. Ah, d'accord.
Mais normalement, c'est le lac Léman, le plus grand lac d'Europe.
D'accord.
Et qui est une vraie mer intérieure, hein, Jean-Baptiste.
Absolument.
Parce que le Rhône arrive dedans. bien. Et je vous garantis que si vous n'êtes pas une bonne nageuse, oui, quand le temps commence à changer, hein, bah, tu vois que tu es une spécialiste.
Par expérience, je l'ai fait.
Oui. Isabelle, est-ce que je peux vous faire une confidence qui va vous surprendre ?
Vous m'aimez bien.
Bah, d'abord, je vous adore. Mais Jean-Baptiste s'appelle Jean-Sébastien.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Voilà. Non, mais c'est une précision qui me semblait importante.
Comment je t'ai appelé ?
Jean-Baptiste.
Oh, pardon, excuse-moi.
Ça fait 10 minutes.
J'ai même pas relevé.
Non, mais. C'est bien qui demande.
Ben oui, c'est ça.
Mais je me confirme, c'est l'animal.
Mer intérieure, c'est tellement vrai qu'au XVIe siècle, il y a eu un raz-de-marée tragique sur le lac Léman à cause d'intempéries qui sont arrivées depuis l'Autriche et qui ont ravagé. Il paraît qu'il y a eu une vague de 15 mètres de haut qui a ruiné tous les pourtours du lac.
Et je crois que d'ailleurs, attends, sans blaguer, je crois que dans il y a un espèce de petit musée vers Thonon,
il me semble,
où l'histoire est racontée. Oui. Il paraît qu'il y a une sirène d'ailleurs aussi au milieu du lac, statue de sirène au fond qui daterait de cette époque.
Après, si on boit des trucs aussi dans la région, hein, je veux dire, c'est pas.
et le lac de Bourget, je sais que je l'ai fait en pédalo, hein.
Ah,
il peut traverser en pédalo dans le sens de la longueur.
Et en plus sportive.
Assez.
C'est un bonheur de vous avoir avec nous. Qu'est-ce que vous avez pour terminer ? Qu'est-ce que vous avez de savoyard en vous ?
Ce que j'ai de savoyard, c'est l'amour profond des vaches tarentaises.
Ah ouais ?
L'amour des terres, des petites exploitations de Savoie qu'on est en train de massacrer. Est-ce que je l'ai assez dit, ça ?
Non, je
la
pense que c'est clair.
La déforestation absolument imbécile qu'on est en train de faire là-bas. J'adore les toits pentus, parce qu'autrefois il y avait de la neige et qu'il peut y en avoir encore. Mmh. Et l'abandon des Savoyards des toits pentus pour mettre des trucs carrés, blocos et tout, ça c'est une hérésie. Construit en préfabriqué qui est déjà vu avant d'être fini. Donc si je puis me permettre, bah, j'aime passionnément cette région. C'est pour ça que l'alliage, le lac, la campagne, la montagne, il est rare et j'aimerais bien qu'on le préserve. Et ça, c'est pas ce que font les maires frontaliers.
Le message est clair. Isabelle Morini-Bosque, je connais la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous allez sur les marchés l'été ou pendant l'année ?
Moi, je vais dans tous les marchés où il n'y a pas que de l'alimentation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire des marchands de cuivre, des marchands de trucs locaux. Et alors, sur le marché d'Évian, il y avait des religieuses qui faisaient des trucs en bois, mais d'une qualité exceptionnelle.
Des trucs en bois, c'est-à-dire ?
Tous les objets en bois, que ce soit des paniers, que ce soit des petites statuaires, que ce soit... elles sont formidables. Et j'aimerais bien qu'elles reviennent, parce que ça fait au moins 3-4 ans que je ne les vois plus.
Bah, où qu'elles sont ? Merci Isabelle, en tout cas, d'être venue nous voir dans RTL, vous régale.
C'est une bonne nageuse, hein. Je suis une très très bonne nageuse.
Surtout au milieu des carcasses d'écarissage.
Dans le Léman, il y en a un peu moins, mais vous savez qu'un jour, je nageais avec un bonnet de compétition parce que je frise.
Ouais.
Et le bateau, il n'a pas vu. Il croyait que c'était une bouée pour attacher mon bateau. Et il m'a jeté le truc. Et sa femme le dit. Je t'avais dit, imbécile, que c'était quelqu'un.
Vous savez qu'on reçoit des appels, là, parce que les éditeurs se bousculent au portillon pour éditer vos mémoires. C'était Isabelle Morini-Bosque dans RTL vous régale. Passez un très bel été, Isabelle. Revenez quand vous voulez.
Je vous souhaite le même. On se verra peut-être en Belgique, car j'adore la Belgique.
Ou qui sait, au milieu du lac Léman.
Pour manger des croquettes.
Je suis moi-même un piètre nageur, et pourtant, je ne manque pas une occasion de m'amuser.
Vous sauvez.
Mais je sais, je me l'imagine. Je vous embrasse, Isabelle. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Dans un instant, on file au marché. Vous l'avez compris. À tout de suite.
Hanging I'm gonna take my
du tout nouvel album de Texas qui vient de sortir. Charline Spiteri, Texas, c'était High sur RTL.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
On a trouvé des produits frais, on a trouvé des vêtements, on a trouvé tout ce qu'on peut imaginer sur les plus beaux marchés de France depuis le début de cet été. Jean-Sébastien, c'est la dernière semaine d'RTL vous régale. Nous sommes en Savoie, en Haute-Savoie. S'il y a une ville qui propose des marchés formidables...
C'est Annecy. Il y en a d'autres, en Haute-Savoie et en Savoie, mais Annecy, c'est une ville qui propose un grand nombre de marchés. Vous allez pouvoir faire vos courses, vous allez pouvoir manger des produits frais, acheter effectivement des vêtements ou tout ce que vous voulez d'autre. Les marchés d'Annecy sont très appréciés par les gens du coin, par les touristes également, que ce soit l'hiver ou l'été. Essentiellement alimentaires, ils permettent de faire des courses tout en flânant dans le vieux quartier de la ville. Il y a 3 marchés chaque semaine qui font véritablement partie du décor de la vieille ville. Mercredi, vendredi et dimanche, c'est des commerçants qui s'installent et qui font battre le cœur du vieil Annecy avec leurs produits, avec leurs spécialités, sur des étals dans des rues qui rétrécissent alors qu'elles sont déjà très étroites. Le marché de la vieille ville du dimanche est un incontournable absolu. Les fromagers viennent vendre la tourme de Savoie, le reblochon dont on parlait au début de l'émission. Et puis, vous avez également des gens qui viennent de la vallée de Thônes qui vous vendent des tartiflettes toutes faites. Ça donne une odeur qui plane comme ça dans les rues de la ville. C'est absolument génial. Vous allez pouvoir également acheter tous les produits de charcuterie locale parce que le jambon de Savoie, le jambon cru, est une merveille absolue. Et puis, en été, en ce moment, il y a beaucoup de maraîchers parce qu'il y a beaucoup de fleurs également et d'herbes qui sont vendues sur les marchés, ce qui fait de ces marchés d'Annecy véritablement un endroit incontournable pour les locaux, pour les chefs, parce qu'il y a des chefs absolument excellents, je pense à Jean Sulpice à l'auberge du Père Bise, et ça fait partie de ces endroits qu'il faut préserver, visiter et
bien
consommer.
Sûr, bien sûr.
Et je sais que Louise est fan de ça aussi.
Ah bah oui, moi, Emmanuel Renaud, enfin, je suis fasciné.
Au-delà des fromages en montagne, les saucissons de montagne, il y a les saucissons aux noisettes, les saucissons... Il y en a mille et une façons de faire des saucissons là-bas.
Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis une grande skieuse.
Ça, c'est important, je pense.
Oui, on est en Savoie, votre avis.
Et au cœur
je ne suis pas une grande nageuse.
Et au cœur de ce mois d'août, je pense que c'est une précision qui me semble importante. Le défi frigo...
Que la neige, elle est trop dure.
C'est ça.
J'ai mal au pied.
Quand te reverrai-je, cher défi frigo, dans quelques instants, un ingrédient de votre frigo, un duel, Jean-Sébastien contre Louis, c'est l'antépénultième duel de cet été. On vous en parle dans quelques minutes sur RTL, juste après Niagara, 1987, et je dois m'en aller, on vous souhaite une très bonne fin de matinée avec nous.
Viens sentir le goût de mes lèvres, viens plonger dans l'eau.
Des duos majeurs des années 80, Niagara, je dois m'en aller sur RTL.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
Je m'adresse à vous, mes chers amis. Jean-Sébastien, Louise, est-ce que vous êtes prêts pour l'antépénultième défi frigo de cet été ?
Je ne sais pas.
Voici Christiane, dans l'Isère. Christiane, bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour Louise,
bonjour Christiane.
Bonjour Christiane.
Comment ça va ?
Je suis très 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 heureuse d'être avec vous.
C'est un bonheur partagé de vous accueillir dans cette émission. Vous appelez d'où exactement Christiane ?
De l'Isère.
D'accord, je rappelle que vous jouez pour un séjour en famille dans un club Bellambra. Bellambra, le numéro un des clubs de vacances en France. Il y a un tirage au sort vendredi en fin de semaine, le dernier de cette saison d'été, qui peut-être vous permettra de repartir avec la personne de votre choix pour un séjour d'une semaine en demi-pension à la mer ou à la montagne. C'est vous qui verrez parmi les 50 destinations de Bellambra. Nous n'en sommes pas là, Christiane. Non. Qu'allez-vous nous proposer pour ce nouveau défi frigo ?
Un beau canard fermier que mon mari élève.
Ah, quelle merveilleuse idée. Non mais c'est vrai, c'est une bonne idée parce qu'on parle souvent du poulet du dimanche.
Bah oui.
Voici, moi je me souviens.
Il y a les ravioles chez vous, Christiane.
Mais moi j'ai un souvenir.
Oui.
Les canards du mercredi.
Ah non, moi j'ai un souvenir. On avait reçu un canard un dimanche.
Alors le lundi matin, le canard était toujours vivant. On ne peut pas le retrouver, on le cherche partout. Il était monté sur le buffet,
Sur le buffet.
Ça m'inspire, ça m'inspire.
Immense Robert Lamoureux, évidemment. Bon, Christiane, ce canard, on va en faire des choses...
Toujours vivant.
On va en faire des choses magnifiques, vous allez voir, ils ne vont pas vous décevoir. La recette de Louise, celle de Jean-Sébastien, c'est dans quelques instants pour ce défi frigo.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
On n'aura pas fait les comptes hein, depuis le début de l'été. Je ne sais pas où nous en sommes, quel nombre de victoires pour l'un et pour l'autre. Peu importe, tout s'est passé dans un état d'esprit de franche camaraderie.
De fair play,
mais
absolument.
Il y a eu quelques escroqueries.
De qualité aussi.
Des escroqueries de grande qualité. Je me souviens d'un carpaccio. Surtout sur la courgette. Un sandwich de courgette, un carpaccio de courgette qui a par deux fois... Vous ont permis de l'emporter, Louise, contre toute attente. Alors aujourd'hui, on parle de choses sérieuses grâce à Christiane. Son mari élève des canards. Rendez-lui hommage.
Qu'est-ce qu'on fait avec un canard ?
C'est Jean-Seb
qui commence.
Allez-y. Bah, écoutez, moi, c'est très compliqué de faire un canard entier. Donc, je vais rendre service peut-être aux auditeurs, parce qu'on fait toujours des magrets de canard. On fait rarement du canard entier aujourd'hui. Je vais vous donner une recette absolument imparable que j'ai apprise au Québec pour cuire parfaitement un canard. D'abord, il faut le sortir du frigo, si vous l'aviez dans le frigo, une bonne demi-heure pour qu'il soit vraiment à température. Première opération extrêmement importante, vous rincez l'extérieur et l'intérieur du canard à l'eau froide, vous l'épongez avec un papier absorbant, du coup vous aurez une peau qui sera très croustillante. Vous assaisonnez votre canard, vous enveloppez les ailes et les cuisses dans du papier d'aluminium pour éviter qu'elles sèchent à la cuisson, parce que forcément ça cuit plus vite, c'est moins important. Vous déposez le canard sur une plaque et vous allez ajouter à l'intérieur une mirepoix de légumes avec des carottes, de l'oignon, de l'ail, du céleri, tout ça coupé grossièrement, beaucoup d'herbes, des baies de genièvre, du poivre entier, du thym, des clous de girofle, et vous allez faire cuire ce canard pendant 2 heures, enveloppé dans du papier d'aluminium.
en entier. Une demi-heure avant la fin, vous retirez le papier pour que la peau dore, pour la rendre plus croustillante, et le canard est cuit à partir du moment où la jonction de la cuisse est à grosso modo 80 degrés. Vous prenez avec une sonde, prévoyez grosso modo 60 minutes, 1 heure par kilo de canard, et vous allez avoir un canard qui sera croustillant,
quelle température
goûteux, autour de 180.
Trop tard.
Très bien, terminé. On a levé les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, comme ça, d'un premier jet, Christiane ?
C'est pas mal.
C'est très simple, il n'y a pas de recette particulière, mais c'était là pour le coup, c'est pour rendre service à tout le monde.
C'est canadien, cette technique qui consiste à rincer le canard.
Absolument, et ça je peux vous assurer que je l'ai essayé plusieurs fois.
Temps, hein.
Rincer le canard, le laver et l'éponger vous donne une peau croustillante à un canard. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Je ne sais
c'est
pas.
C'est comme ça.
Mais ça marche.
Voilà.
Petit challenge.
Bon, Louise, est-ce que vous allez rincer le canard ?
Évidemment.
Alors attention,
parce
une minute trente, c'est parti.
Bon alors, Christiane, moi je ne sais pas sur quoi on est basées toutes les deux, parce que je ne sais pas combien pèse votre canard. Donc je vais vous donner un temps de cuisson qui ne sera peut-être pas forcément le bon. Ce que j'aime, est-ce que vous connaissez la cuisson à l'étouffée ?
Oui, bien sûr.
Ah, voilà.
Et puis on couvre.
Et est-ce que vous connaissez la cuisson au foin ?
Non.
Ah, et ben je vais vous la prendre. Vous allez prendre une cocotte en fonte. Ouais. Vous allez acheter du foin bio, attention, qui se vend dans toutes les grandes surfaces au rayon animalerie. Donc il faut regarder qu'il soit bien bio. Vous le lavez, vous tapissez votre cocotte en fonte avec ce foin-là. Vous mettez votre connard. Votre canard.
Mon connard.
Pardon.
Alors, recette, la fameuse recette du connard à l'orange. Tout le monde la connaît.
Vous mettez votre canard sur ce fond tapissé de foin. Vous recouvrez, vous salez, poivrez, ça on est habitué. Vous remettez du foin par-dessus. Et là, vous refermez la cocotte en fonte. Et vous, c'est pas gentil, vous m'aidez pas. Et vous allez lutter la cocotte. C'est-à-dire que c'est un mélange de farine. Vous allez faire un petit puits, comme dans les recettes d'enfance régressives, mettre des blancs d'œufs au milieu, forcément, et ajouter un petit peu de sel pour la coloration, puis de l'eau, et donc vous allez avoir une texture de pâte à pain, et donc vous luttez votre cocotte, donc vous entourez le couvercle.
Top chrono.
Il n'y aura pas...
Non mais elle voit ce que c'est, Christiane, vous voyez ce que c'est que lutter une cocotte.
Oui,
ça consiste à recouvrir d'une pâte.
Oui.
D'une pâte à pain.
À partir du moment où il y a un canard dedans.
Il y a deux heures de cuisson également.
Et oui, c'est ce que j'allais vous dire, mais comme je ne connais pas la grosseur et le kilo de votre canard.
De 3-4 kilos.
Il y a du temps là.
Un bon gros canard.
Vous avez de la chance.
Ah ben, ils sont bien nourris.
Ah bah oui. Non,
mais je vous dis, on ne peut pas lutter, puisque vous parliez de ça, on ne peut pas lutter contre un gros connard. C'est ça un problème.
Non mais ça...
Faut même pas tenter
non,
de le
je suis
faire.
Désolé.
Ah, vous m'avez régalé, cette émission porte décidément bien son nom. Christiane, il va falloir choisir entre le canard au foin de Louise ou le canard à la canadienne, on va l'appeler comme ça, de Jean-Sébastien.
Mais c'est très dur.
Je sais.
Ça m'est injuste. Je vais le travailler sur les deux recettes.
Oui, alors ça, je vous fais confiance. Le seul problème, c'est qu'il faut choisir parce qu'il me faut un vainqueur.
Il y a un monsieur et une dame. Oh là là. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, honneur à Louise.
On a compris que c'était extrêmement indécis. Mais victoire de Louise Petit Renault grâce à ce canard au foin en cocotte luttée. Bravo Louise et merci Christiane, on va vous envoyer un guide du routard.
C'est moi qui vous remercie.
Une montre RTL et puis je vous rappelle que vendredi tirage au sort pour le séjour Bellambra. Je vous souhaite bonne chance.
Chouette.
Merci Christiane.
J'espère que vous passez un bel été.
C'est gentil.
Gros bisous, Christiane.
Merci,
à bientôt.
À bientôt. Merci.
Et je rappelle que pour vous inscrire au défi frigo, vous envoyez pour quelques heures encore le mot régal par SMS au 64 900. On vous rapporte des choses. On vous ramène tout ce qu'il faut de Savoie. On vous dresse la liste des courses dans un instant sur RTL. Julien Doré, la chanson s'appelle WAF. C'est un des succès de cet été.
Il paraît que la terre est plate. Que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent, fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était éteint pour toi. Mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas.
C'était Julien Doré dans RTL vous régale.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
C'est de la liqueur d'échalote. Assez goûtu, hein. Ça a du retour.
On peut pas dire qu'on aurait été avare de conseils dans cette émission depuis le début de cet été. Les petits conseils d'amis d'RTL Voreal. On va encore se faire plaisir ce matin en Savoie, en Haute-Savoie. Je vous propose de passer un petit coup de fil à quelqu'un qui est sur son tracteur en ce moment, dans son exploitation. Il est producteur de tomes d'ébauche à la ferme de la Correrie à Aillon-le-Jeune. Bonjour Philippe Ginolin.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Alors la ferme de la Correrie, vous êtes membre de la route des fromages de Savoie, ça place son nom. Philippe, je sais que vous êtes en pleine activité là pour le moment. Vous faites quoi là à l'heure où on vous parle?
Là on bricole, on va dire comme ça, on s'occupe parce que on est en fin de la période de foin en montagne, hein, et puis avec ce temps un peu tout biscornu là, ça va pas comme on veut.
Ah bah oui, vous avez raison.
Beau, un coup il pleut, dans nos étorages ça pleut pas, donc voilà. Donc entre les périodes de foin, on s'occupe. On va dire comme ça, mais on a toujours du boulot, donc il y a toujours quoi faire.
On imagine. Je disais que vous étiez producteur de tomes d'ébauche. Un bon fromage, c'est du bon lait. Et le secret pour faire du bon lait, c'est quoi finalement?
Eh ben, c'est très simple. Un bon lait, c'est
le foin.
Voilà, c'est un bon troupeau laitier et c'est une bonne alimentation sur les vaches. Voilà, et bien évidemment, ça va avec le foin de montagne.
Et je viens de gagner, Philippe, avec un canard au foin dans le défi frigo.
Exactement.
Eh ben, c'est la classe.
Comment ça se fait, la tome, chez vous, la tome des Bauges?
Eh ben, bon lait de montagne, c'est déjà un joli troupeau avec des races de montagne, donc la tarine abondante, avec nous, chez nous, la tarine qui est dominante, bien sûr. Hein, la Savoie, en montagne, c'est la tarine qui est dominante un peu. Suivi de ça, ben, une très bonne alimentation avec de l'herbe de montagne, des prairies fleuries, bien évidemment. Et puis, pour l'hiver, eh ben, c'est un foin récolté en grosse partie sur la montagne, aux alentours de 800 000 mètres d'altitude.
Mais sur la technique du fromage, je veux dire, en fait.
Et après, bah, la tome des broches, c'est tout, enfin, c'est tout simple. Pour ceux qui savent la faire, c'est tout simple. Hein, c'est un lait de mélange du lait du soir et du matin.
On le fait chauffer.
Voilà, qu'on fait chauffer le matin, qu'on chauffe à une température, voilà, en fonction des fermiers, hein, 32, 33 degrés. Hein,
puis ça durcit.
Voilà, le lait, il est maturé, on met de la présure.
C'est de la présure, hein, ouais.
Et au bout de 40 minutes, entre 30 et 40 minutes, ça devient un gros yaourt, qui est après, bien évidemment, coupé avec un tranche cahier en grain, de la grosseur d'un grain de maïs, retravaillé, rechauffé, entre 36 et 38 degrés. Et puis, voilà, ça dure à peu près 30-40 minutes.
Et c'est là, Philippe, qu'intervient le vrai savoir-faire, c'est attendre.
Voilà. Voilà.
Et donc, c'est les laver, c'est leur parler, c'est les raconter ce moment, justement.
C'est d'aimer faire ce qu'on fait et puis d'être patient, parce que le fromage, c'est pas un chronomètre. Hein. Donc, quand il est bon à détailler, il est bon à détailler. Quand il est bon à mettre en moule, eh ben, c'est la main qui est experte qui va parler de tout ça.
Et, puis, et le temps. Et le temps.
Et le temps. Et puis, voilà, quand on a préparé tout ça, eh ben, on va mettre tout ça dans les moules. On va sortir un fromage différent entre 1,4 kg, 1,5 kg, hein, quand il est bien humide, même 1,6 kg.
Ça va rester combien de temps dans les caves, Philippe ?
Eh ben, le jour de fabrication, il reste dans la fabrication. Le soir, il est passé en cave, salé d'un côté. Le lendemain matin, salé de l'autre côté. Et puis après, de toute façon, sur l'AOP, on a un minimum de 5 semaines en cave avant de le vendre.
Voilà, minimum 5 semaines.
Ouais, mais c'est bien de pousser à 6, voire 7 semaines.
Et là, vous êtes au pays du fromage. Quel est votre fromage préféré, vous ?
Ah, vous allez rigoler, hein. Moi, je suis producteur de fromage toute l'année et j'en mange pas. Donc voilà.
Ah bah c'est voilà. Pas les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais,
exactement.
Voilà. Je mange fondu, mais froid comme ça, j'ai du mal.
Ça tombe bien que vous en parliez du fromage fondu, parce que je sais qu'elle se cuisine, cette tome des Bauges.
Voilà, elle se cuisine, ouais.
Faites de la matouille.
Enfin, la matouille, ça a été revisité il y a quelques années. On fait la matouille.
Faut expliquer ce que c'est, la matouille, hein, Philippe.
La matouille, c'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple qu'une matouille. C'est une tome des Bauges fermières ou laitières, qui est préparée avec, on va dire, on va gratter la croûte sur le dessus, on va faire quelques trous, on met de l'ail, du vin blanc ou pourquoi pas de la bière, hein,
ah ouais,
pour changer un peu, et au four 30 à 40 minutes. Et puis c'est tout simple.
Pommes voilà, de terre, charcuterie, un peu de pain.
Enfin, c'est tout simple, Philippe, mais c'est quand même la définition du bonheur.
Ça va plaire à Isabelle. Oui, oui.
Mais je veux dire, c'est vraiment une préparation très simple à faire.
Merci beaucoup, Philippe Ginolin. Je rappelle que vous êtes producteur de tomes des Bauges à la ferme de la Corrie à Aillon-le-Jeune. On vous souhaite une très belle journée dans les montagnes. À bientôt.
Eh ben, nickel. Merci beaucoup.
Merci, Philippe.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir. Jean-Sébastien, dans les produits incontournable de la région. Il y a des confiseries aussi.
Absolument. Les roseaux du lac, ça c'est un truc qui est plutôt... 1924, un confiseur nommé Pierre Laurent, qui est originaire d'Ardèche, formé à Lyon, installé à Annecy, crée ses roseaux. Ça s'inspire du paysage, une réplique sucrée du paysage, avec des roseaux comme ça qui sortaient du lac, un sucre cuit mélangé à du café, dans des petits roseaux du 8 cm. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on cuit le sucre avec le café, en refroidissant, en se solidifiant, le sucre se sépare du café et emprisonne le café comme dans une capsule. C'est absolument magnifique. Vous trempez ça ensuite dans du chocolat, vous le recouvrez d'un joli pailleté et ça donne une confiserie qui est juste sublimissime à goûter.
Bah, rien qu'en l'expliquant, ça me fascine. L'anthésite, est-ce que vous savez ce que c'est que l'anthésite ?
Non.
Enfin,
J'en sais, une passion pour ça.
Oui, ça vient de l'imagination d'un apothicaire. On est en 1898, un apothicaire qui avait une mission de service public, une mission de santé publique même, et il met au point, après plusieurs mois de recherche, de rien moins que le premier sirop de France, un ultra concentré qui associe la réglisse et l'anis étoilé, et ça donne, avec juste quelques gouttes d'anthésite dans une bouteille d'eau, ça donne une boisson ultra rafraîchissante, et ça permettait aux ouvriers qui étaient sur les bords, notamment lui travaillait pour ceux qui
créé, qui faisait les voies ferrées, d'éviter de boire des saloperies, et ça permettait de rafraîchir l'eau d'enlever le mauvais goût de l'eau qu'il y avait au 19e siècle.
Mais d'ailleurs, c'est de santé publique de parler forcément du Beaufort.
Eh tiens, aussi.
Mais parce que quand on part en vacances, on rapporte un souvenir avec nous.
40 kilos la meule de Beaufort, hein, je rappelle
voilà,
le souvenir.
Juste, donc c'est pas rien. Et on repartage un moment avec nos amis en racontant les vacances. Et ce Beaufort est un fromage au lait de cru de vache. Philippe nous en a parlé. 40 kilos, donc c'est pas un petit fromage, hein, c'est un vrai fromage.
C'est du sérieux,
il y a pas de faux fromage, mais c'est un fromage sincère, vrai, qui sent bon, qui se garde. C'est le terroir de la Savoie, c'est juste fantastique. Et surtout, on peut le cuisiner. C'est-à-dire qu'on peut le napper sur un gratin, il se cuit ce fromage.
Évidemment. Et quand on parle de fromage cuit, on pense à la raclette, évidemment. Et il n'y a pas de bonne raclette sans charcuterie.
Notamment sans jambon sec. Les charcuteries en montagne, c'est pas ce qui manque.
Par exemple.
Mais le jambon sec de Savoie qui bénéficie d'une indication géographique protégée, c'est effectivement l'idéal. C'est de la haute charcuterie. On prend la pièce la plus noble du cochon, à savoir la cuisse, qu'on sale au sel sec, qu'on frotte à la main. Et puis après, ça va reposer, ça va maturer entre 6 mois et 1 an en fonction de la grosseur de la pièce. Et c'est un vrai bonheur. Moi, j'adore les jambons secs, qu'ils soient de Savoie d'ailleurs. Enfin, je suis de Savoie, pas mal.
Enfin, ouais, un témoignage poignant dans cette émission.
Oh, oui, non,
on va se poser dans quelques instants sur l'Altiport. on vous emmène pour le petit pas de côté de Jean-Sébastien, direction Courchevel, dans RTL vous régale.
N'est pas
à tout de suite.
Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite. Régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Et je maintiens que c'était une bonne idée de vous emmener à la montagne. Pendant l'été, comme ça, pendant le mois d'août, je trouve que ça change.
On respire.
Absolument. On va faire un petit pas de côté, ça aussi, ça va changer les habitudes. On va quitter les endroits que nous avons visités pour aller vers Courchevel.
1946, Courchevel est le prototype de la station bâtie sur un site vierge. Une station créée donc ex nihilo. On a calqué le modèle des villes de front de mer sur la montagne. Et on a inventé le principe de la station en étage. Puisqu'il y a Courchevel 1850, Courchevel 1650, etc. Et ça donne, c'est un peu ce qu'on a fait un peu partout dans les Alpes. Courchevel, en fait, a été la répétition du plan neige qui démarre en 1964. Il fallait être efficace pour attirer les Français vers un nouveau type de loisirs, pour attirer les touristes étrangers qui partaient en masse déjà vers l'Autriche et l'Italie, qui avaient pris un peu d'avance en matière de sport d'hiver. Flaine, les Arcs, Signes, Avoriaz, virent le jour et ce fut une véritable révolution dans les vallées alpines. Il n'y a pas eu que des heureux. Isabelle Morini-Bosque, par exemple, n'en est pas une fan. Il faut avouer qu'on a exproprié de manière radicale. L'environnement en a pris un sacré coup dans la tronche. On a transformé les Alpes et leur économie. Et finalement, 75 ans plus tard, Courchevel et les Trois-Vallées sont aujourd'hui quand même la référence en matière de stations de ski chic, classe. Stations qui ont rapporté des millions d'euros de devises. Les Alpes proposent à la fois un tourisme nature et de randonnée l'été. L'hiver, la Savoie totalise à elle seule près de la moitié de l'offre française de sport d'hiver. La vallée de la Tarentaise accueille plus de touristes que le département n'a d'habitants. Les choses avaient largement changé depuis quelques années avec les aléas de l'enneigement un peu plus incertains. Et les stations viennent d'encaisser 2 saisons mortes. Les pertes financières sont énormes. L'hémorragie de personnel saisonnier est inédite. Alors, pour retourner skier, pour retourner surfer en toute sérénité, il va falloir qu'il neige et il faudra être vacciné.
RTL vous régale.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Eh ben les amis, je sais pas vous, mais moi, cet air pur de la montagne m'a fait un bien fou.
Moi aussi.
Franchement,
moi aussi.
En plein mois d'août, comme ça, c'est vivifiant, je trouve.
Manger un gâteau de Savoie avec du Beaufort, c'est
merci, paradis. C'était une merveilleuse idée. On peut compter sur vous, Louise, en toutes circonstances. Louise, Jean-Sébastien, demain, on va jouer à domicile. Je vous le dis en un mot, commençant. Les supporters un peu old school que nous sommes seront ravis de faire escale.
Oh non, non.
Oh mon Dieu. Allons pas du Parc des Princes. Nous serons à Paris, en Ile-de-France, demain dès 11h. Passez une très belle journée et à demain. Vous écoutez RTL.